Est-il possible de traverser les fêtes de fin d'année sans prendre de poids et sans ruiner nos efforts et notre entraînement? C'est notre discussion de la semaine avec Laure. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et progresser encore plus et devenir plus performant. Avec Laure, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est les fêtes de fin d'année. C'est un moment un peu délicat pour certains. Il y a la famille, les repas, le chocolat, les tentations. Mais peut-être êtes-vous en même temps dans le début d'une préparation pour un marathon de printemps ou vous avez peut-être une course en début d'année. Alors, comment faire? L'idée, c'est de vous aider à en profiter sans vous priver des moments festifs, des bons repas, mais tout en se posant la question de l'impact sur notre poids, sur notre entraînement. Avec Laure, nous envisageons donc quelques stratégies pour cette période et gérer notamment un élément important et peut-être méconnu, la glycémie. Non, on ne va pas vous dire d'amener votre Tupperware au réveillon, mais sans surprise, on va vous dire de bouger, mais aussi de vous lâcher un petit peu la grappe. Allez, c'est parti. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante avec Laure, je fais quand même une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça va bien, moi, tu vois, on arrive vers les fêtes de Noël, je mange des papillotes, j'augmente ma charge glucidique petit à petit, je me transforme en petite dinde bien grasse, bien grassouillette, ma balance m'a dit que je prends un peu de gras, écoute, c'est normal, non, c'est la période?
Bah écoute, à partir du moment où ça te pose pas de problème, on va le voir aujourd'hui, hein, mais à partir du moment où t'es ok avec ça, pourquoi les fêtes de Noël ne pourraient pas être l'occasion de un petit peu profiter de la vie? Tout en, si on le souhaite, gardons un petit peu le contrôle, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Puis en plus, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai enregistré plusieurs épisodes pour Sport Nutrition et pour Kimmel 42, et c'est qu'avec des nutritionnistes, diététiciens, etc., on parlait que de ces questions d'équilibre et tout, enfin voilà, on a parlé plein de sujets, puis en même temps, moi, je boulotte des papillotes. Bon, écoute, le sujet, hein, on l'a dit aujourd'hui, on va parler fête de Noël, des glucides, du gras, de la graisse, tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a le droit de tout manger, pas manger? Comment on s'entraîne?
C'est ça.
J'ai répondu d'ailleurs ce matin à une question très intéressante dans le Hamster Zoning Club en disant que j'étais un peu circonspect, moi, sur savoir ce qu'il fallait faire un plan d'entraînement avec les fêtes de fin d'année, là, en plein milieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En disant que pour moi, c'est... Parce que j'ai fait un calcul, la sortie longue le 25 décembre quand même, ça me semble pas possible. Donc l'adaptation des plans va être nécessaire cette année. Donc ça fait partie des sujets globaux. Mais avant quand même, t'avais un petit doute sur un truc que t'as dit la semaine dernière. Alors, on va en faire de reprécision.
Oui, alors moi je réécoute les épisodes qu'on fait tous les deux dans un souci d'amélioration et dans un souci aussi d'être sûr de pas raconter de bêtises. C'est vrai que quand on enregistre tous les deux, on a un script, mais il y a aussi des choses qui nous viennent spontanément. Et en l'occurrence, moi, je voudrais juste repréciser, pour être certaine, je crois m'être trompée entre l'anabolisme et le catabolisme. Donc, le catabolisme, c'est bien l'ensemble des réactions du corps qui vont venir dégrader, catabolisme cassé. Hein. Moi, c'est le moyen mnémotechnique que j'ai. Et pourtant, c'est quelque chose que je sais. Et pourtant, à mon avis, sous le compte du stress de l'enregistrement, j'ai sans doute dû confondre les deux. Donc, si vous réécoutez l'épisode de la semaine dernière, vraiment, l'idée de catabolisme, c'est vraiment l'ensemble de tout ce que l'organisme va mettre en place pour casser. Donc, c'est ce que tu expliquais, hein. Casser, c'est important. Enfin, on casse pour mieux reconstruire. Hein. Donc, tu disais, mais pourquoi le corps casse? Et il casse notamment à l'effort, parce que s'il casse pas, en fait, on dégrade, on a des cellules qui seraient endommagées, et il vaut mieux casser des cellules pour en reconstruire de nouvelles que de conserver dans le corps des cellules qui seraient endommagées. Et l'anabolisme, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels on va venir reconstruire, que ce soit des stocks de glycogène, des stocks de lipides ou des protéines musculaires. Donc voilà, désolé pour ce petit point, mais c'est bien d'apporter des précisions, on aurait pu ne rien dire. On a fait le choix d'être OK et d'être transparent sur le fait que nous, on veut apporter du contenu de qualité et que ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, merci Bertrand de me donner cette opportunité de revenir sur ça.
Avant de poursuivre, comme je dois te dire, parce que toi, tu travailles vraiment à fond sur les sujets. Moi, je suis un petit peu le gars qui balance les idées comme ça, qui revient un petit peu sur les trucs. Mais... je vais te lire un message qu'on a reçu aujourd'hui, dans la semaine, il y a deux jours sur Apple Podcast. Et je le dis parce que comme ça, vous pouvez nous laisser un commentaire. On les lit, on les regarde, je les transmets à Laure et tout. Et quelqu'un qui dit, et je remercie Soso FR, qui dit « J'adore vous écouter, j'aime trop les débats, les différents sujets abordés avec Laure. J'apprends beaucoup. Merci. » Tu vois, hein, pour calmer
ça
ton ferment
plaisir.
Interne.
Hein. Ouais, merci. Merci Soso. Mais c'est vrai qu'on a à cœur de bien faire les choses. Toi et moi, on travaille tous les deux de manière différente et on communique beaucoup en off. Et c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'idées en off. Et au final, parfois, bah, quand on les retranscrit, voilà, sous le compte du stress, ça passe pas pareil. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir ces petits retours. Et merci à vous. Merci pour vos petits messages sur Instagram. Vous êtes nombreux aussi à nous en envoyer et ça fait toujours super chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça. Et on le redit, hein, mais s'il y a des thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles vous voulez qu'on travaille ensemble dans nos débats, et ben c'est avec grand plaisir.
Bon, on peut attaquer maintenant parce qu'on s'est envoyé des petites fleurs, on a fait les petits correctifs, etc.
Hein? On a été dans le dur aussi quand même. Hein,
ouais, enfin, moi, à mon avis, par rapport au menu qui nous attend, au petit menu de fête qui nous attend, je pense quand même, je suis en train de regarder la longueur du script et tout, je me dis, là, on a un sacré sujet. Mais c'est vrai que cet épisode... Alors nous, on enregistre le 9. On en diffuse ça le 13, le lundi.
Ouais, 12. Hein?
12 ? Ouais, bon, bref. je n'ai pas la tête dans l'agenda, mais tu as raison. Nous serons le 12. Donc, on diffuse ça le lundi 12. Et donc, là, tout le monde est en train de calculer, dire oh, « Il y a deux semaines avant Noël, c'est les trois dernières semaines de l'année. La semaine prochaine, c'est les vacances. » Parce que à la fin de la semaine, ce sera les vacances. On va voir la famille, il y a les repas. On passe plus de temps assis qu'en train de courir. Comment on fait ça? Ça va être la catastrophe. Et puis moi, je me suis inscrit au marathon de Paris et que ma prépa de cette semaine, elle a commencé juste à ce moment-là. Et puis moi, j'ai préparé ça. Et puis moi, j'ai ça. Et puis moi, j'ai une petite course le 5 ou 6 janvier. J'aimerais quand même être un petit peu léger. Enfin, tous ces espèces de messages internes là qu'on a là-dessus, tous ces trucs-là. Et en même temps, c'est quand même les fêtes. Hein. Donc, on s'interroge quand même beaucoup sur toutes ces questions-là. Et on a quand même décidé, enfin, surtout toi d'ailleurs, t'as dit, on va faire un lien entre ces fêtes et puis notre équilibre, nos déséquilibres, l'alimentation, tous ces trucs-là. Et je trouve l'idée fabuleuse. Donc...
Bah écoute, merci Bertrand. Alors, il y a deux épisodes vraiment à l'objectif. Il y a deux objectifs à l'épisode, ça commence très bien. Donc le premier objectif, en fait, ça va être vraiment de vous donner des conseils pour bien gérer les fêtes. Et notamment comment finalement ne pas prendre trop de poids avec l'arrivée des fêtes, ne pas limiter notre progression sportive, mais aussi avec cet équilibre d'apprendre à souffler, à récupérer, à profiter. Parce que c'est vrai que nous, en tant que sportifs, on a tendance à surveiller nos apports alimentaires un peu toute l'année, surtout dans des périodes de préparation, parce qu'on sait très bien en fait que notre composition corporelle, bah, c'est un facteur très important dans notre performance. Mais on a aussi parfois du mal à accepter, à lâcher prise dans notre vie et de profiter de tout ça. Et en fait, ça peut nous impacter psychologiquement et même ça peut avoir des conséquences dans notre sphère sociale, que ce soit nos amis ou notre famille, qui pourraient ne pas comprendre nos choix si on n'accepte pas en fait de lâcher prise. Donc nous, ce qu'on vous propose comme premier objectif de cet épisode, c'est de vous donner des astuces pour trouver un équilibre, le meilleur équilibre pour vous, entre limiter la casse et finalement de ne pas prendre de poids avec les fêtes, mais aussi vous permettre de profiter un maximum bah, sans limiter votre progression et en même temps tout en arrivant à psychologiquement et socialement être hyper OK et arriver à lâcher prise sans culpabiliser. Donc si je résume un tout petit peu l'idée de cet épisode et son objectif majeur, bah, ça va être quoi ? Ça va être de bien gérer les fêtes. Et donc pour nous, bien gérer les fêtes, ça va être vraiment de limiter un maximum un déséquilibre psychologique ou des tensions psychologiques, et donc de ne pas se mettre dans cet état de tension, mais bien d'être complètement OK avec ce qu'on va vivre à un moment donné, donc d'être dans le moment présent. Et si être OK pour vous, pour les fêtes, c'est bah, de continuer de vous entraîner et d'être capable de dire non à des papillotes ou d'être capable... c'est OK. En fait, le but, ça va vraiment être que chacun puisse trouver son équilibre, que ce soit dans la gestion de la balance énergétique oxydative, on va le voir ensemble, donner des petites astuces pour ceux d'entre vous qui voudraient être, entre guillemets, les plus sérieux, et aussi vous donner des petits conseils sur la gestion des émotions, la capacité à... Voilà. Ça, c'est le premier objectif du podcast, de l'épisode. Mais on en a un deuxième, hein, Bertrand, parce que en fait, on sait très bien que on vous donne beaucoup d'informations au fur et à mesure des semaines. Et on se dit que ben, si vous écoutez cet épisode quand vous êtes en train de courir ou autre, c'est peut-être parfois difficile d'emmagasiner toutes ces connaissances. Et donc, en fait, on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser un thème, celui d'aujourd'hui, donc les fêtes, pour illustrer en fait tout ce qu'on a un petit peu raconté depuis quelques semaines ensemble. Et donc, on se dit que c'est finalement par l'exemple qu'on va pouvoir très, très bien pouvoir reprendre toutes ces connaissances, les stabiliser et donc, en même temps, continuer à vous apprendre des choses, on espère.
Ouais. Et puis, tu sais, moi, j'ai un troisième objectif secret. C'est que le jour du repas de Noël, dans les repas de famille, quand mamie Yvette, elle dit « Mais tu vas bien reprendre un petit peu des patates, elles sont cuites à la graisse, c'est bonne graisse, tu sais, la graisse d'oie et compagnie, tous ces trucs-là et tout. » Que tu puisses avoir quelques arguments, tu sais, mais pas dire « Ah, mais non, je rejette, etc. » Mais de dire « Non, mais en fait, oui, je peux en profiter, je peux faire ça, on peut équilibrer. » Tu sais, moi, j'aime bien le côté, en fait, quand on apprend quelque chose, et ben c'est encore mieux quand on arrive à réexpliquer un petit peu aux gens, à partager un petit peu notre savoir. Parce qu'en fait, ça nous fait du bien et ça solidifie nos propres connaissances. Apprendre, il ne faut jamais oublier qu'il y a ce qu'on apprend, ce qu'on ingurgite, et on apprend encore mieux en apprenant aux autres. Et je trouve que dans les repas de famille, parce que moi je le vis très régulièrement quand même cette histoire-là, en disant « Ouais, mais tu peux manger ça, il n'y a pas de souci, et puis toi tu devrais faire ça, et puis ça ne te ferait pas de mal de prendre un peu plus de gras, aller manger un peu plus de ça, peut-être. » Combien de fois je l'ai entendu et tout. Et en général, il dit, ah, c'est ça et tout, arrête, papa, arrête, tonton, t'es pénible avec ton truc et tout. Mais je trouve qu'il y a une meilleure réponse, en fait. C'est de dire, bah non, mais en fait, bah, pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose, pourquoi, etc. Et donc, je pense que dans les choses qu'on va expliquer, je pense que c'est le troisième, un petit peu, truc caché. Et si, d'ailleurs, certains le vivent après les fêtes, ils pourraient nous faire un retour, d'ailleurs, de dire, ah ben tiens, ce truc-là, c'était bien pratique. Et
ouais,
parce que moi,
anecdotes,
ça m'intéresserait,
ouais, ça
les anecdotes
sympa.
De fêtes, etc. Dire, ouais, mais finalement, il y avait ça, etc. Et tout, et de pouvoir en parler, parce que je crois aussi, tu vois, que on a tous une petite mission autour de nous d'arriver un petit peu à diffuser aussi certaines de ces paroles. Je n'appelle pas bonnes paroles, je dis en tout cas notre vision quand on pense qu'elle est bonne pour nous et pour nos proches. Voilà, c'était ma petite contribution. Elle n'est pas dans ton script?
Alors, hein? J'aime bien, chaque fois Bertrand il met des petites surprises, chaque fois il me fait des petites frayeurs, mais là ça va, tout va bien.
Ça va.
J'aime beaucoup ce troisième objectif,
c'est
et,
bon.
Et vraiment c'est très sympa.
Tu sais que quand j'étais élève, on m'interdisait de poser des questions. Mes camarades de classe m'interdisaient de poser des questions, de rajouter des trucs, parce qu'ils avaient toujours peur que je pose des colles, etc. C'était la catastrophe. Donc, je me méfie toujours quand je rajoute un truc. Mais en fait, comme on est à la maison, là, tu vois, tranquillement, tu vois, dans le bureau, j'ai mis le chapeau de Noël et tout, je me dis, je peux rajouter un petit bout de truc. Et j'essaye de pas te foutre dans la merde, quoi, c'est tout. Hein, voilà. Mais bon, là, ça va.
Jusque-là, tu ne m'as pas trop mis en difficulté, donc tout va
c'est
bien,
bon.
Je commence à avoir bien confiance en toi.
C'est bon, alors allez. On va pouvoir attaquer. Faux, allez, feu. Allez, on met le feu sous les gamelles, c'est parti.
Alors, on va peut-être commencer par un premier point. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand, sur le fait de ne pas prendre trop de poids et donc d'interroger finalement la balance énergétique. Alors, on en a beaucoup parlé dans le dernier épisode. Et notamment, on va travailler sur la question de la quantité et de la qualité des apports nutritionnels. Alors, on ne va pas revenir dans le détail de ce que sont la balance énergétique. On vous renvoie vraiment au dernier épisode par rapport à ça. Mais on va simplement rappeler qu'en fait, tous les aliments que l'on mange, ils sont composés de macronutriments, et qui dit macronutriments dit énergie, et notamment dit calories. Donc en fait, bah, d'emblée, on voit bien qu'il y a des stratégies alimentaires à adopter pendant les fêtes si on veut limiter ces apports. Et notamment, il y a deux grandes stratégies qui sont très intéressantes. C'est un, de maximiser donc, ce qu'on appelle le volume alimentaire avec une densité calorique qui est assez faible. Donc de tendre vers plutôt des légumes, des choses qui sont relativement peu caloriques et qui vont mettre malgré tout du volume et qui vont permettre de rester sociabilisé dans le sens où on a une assiette qui est bien garnie, mais on a une assiette qui est bien garnie et finalement pas tant de calories que ça.
On peut te donner un exemple.
C'est une première petite. Ouais, ben par exemple, si on a la dinde avec des marrons, des petites pommes de terre sautées, moi je fais un petit clin d'œil à ma mamie, c'est son petit plat préféré. Ben en général, il y a des haricots verts avec, souvent ce genre de choses. Ben l'idée, ça peut être de demander un petit peu plus de haricots, un petit peu plus de pommes de terre. Alors la pomme de terre, on a tendance à la bannir en fait et à la diaboliser, mais la pomme de terre, elle, c'est un aliment très très intéressant dans le cadre d'un régime alimentaire où on voudrait un peu limiter les apports, parce que certes elle est plus calorique qu'un légume, parce que ça tourne autour de 80 kcal pour 100 grammes, mais c'est beaucoup moins calorique par exemple que des marrons. C'est moins de tête, ça doit être assez proche, hein. Mais l'avantage de la pomme de terre, c'est qu'en fait elle a un pouvoir rassasiant extrêmement important, dans le sens où elle est composée de de beaucoup de féculents, de sucres lents, en fait, qui se diffusent très, très, très lentement dans l'organisme. On va y venir après, hein. Et donc, la pomme de terre, alors, après, tout dépend comment elle est cuite, hein. On en parlera dans la deuxième partie avec la question de la glycémie. Mais typiquement, une bonne assiette, ça peut être ce que moi, j'appelle les assiettes 4 quarts. En fait, ces assiettes 4 quarts, c'est de séparer l'assiette en 4. Alors, c'est pas le bon 4 quarts au beurre. Non, désolé, Bertrand. Je voyais tes yeux malicieux. C'est de séparer l'assiette en 4 et d'avoir une moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Donc ça peut être déjà une très bonne stratégie, donc de demander un petit peu plus de féculents, un petit peu plus de volume alimentaire. Et on y reviendra après, l'avantage des fibres, en fait, on verra que ça ralentit en fait clairement la glycémie, le pic de glycémie, donc ça peut être très intéressant. Et les fibres, elles sont dans les légumes. Vas-y, Bertrand.
Je peux rajouter un petit truc, c'est que l'assiette 4 quarts, là, bon, tu l'appelles comme ça, mais c'est vrai que la moitié de légumes, et moi je dirais un truc, c'est qu'on commence par se servir des légumes. C'est-à-dire qu'on considère que le reste est un accompagnement des légumes, plutôt que le légume est un accompagnement de la viande et des petites pommes de terre sautées, etc., des trucs comme ça, là. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on remplit, on remplit, et puis après, il reste une petite place pour les fameux haricots. Il faudrait mieux faire l'inverse. En plus, généralement, tout le monde ne se jette pas sur l'haricot, donc des fois, il en reste plus qu'on veut. C'est d'abord commencer par la moitié de légumes, et ensuite, gérer l'accompagnement qui va autour. Alors qu'on est dans une tradition où on a plutôt tendance à considérer que les légumes sont un accompagnement. Et je ne sais plus qui nous avait, dans un épisode, on avait parlé de ça, on a dit, bah, si on pense à l'inverse, je crois que c'est les épisodes d'ailleurs avec Anthony Fardet, on a dit, bah,
Ouais,
pensez
je crois bien
l'inverse,
aussi.
de dire que, de partir du principe qu'on pourrait dire que le légume est en fait le plat principal, hein, quasiment, et qu'à côté, on a de l'accompagnement, et dans cet accompagnement, on a la viande, et puis on a pommes de terre, les marrons, les trucs comme ça. Et je pense que c'est une bonne stratégie, effectivement, de procéder ainsi.
Toujours dans cette logique de réduire un peu cette densité calorique, cet apport calorique massif, c'est bah, de pas trop abuser des bonnes choses à l'apéro, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais on va picorer, allez une petite poignée de cacahuètes, mais une poignée de cacahuètes ça monte très 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 vite, hein. On en a parlé la semaine dernière, hein. 1 g de lipides c'est 9 kcal pour 100 g, donc c'est énorme. Et donc bah, pareil, adopter des choix stratégiques au moment de l'apéritif, en allant en plus vers des petites verrines ou vers plutôt des trucs un petit peu plus légers. Donc ça, c'est la première stratégie, c'est vraiment d'avoir en tête que chaque calorie est une calorie et qu'on peut diminuer la densité calorique de l'ensemble en allant davantage vers du volume, mais qui n'est pas forcément révélateur d'une charge glycémique, enfin calorique importante. La deuxième stratégie que moi, je recommande, c'est en fait cette idée de maximiser quand même les protéines aussi. Parce que les protéines, elles ont une grande capacité à être déjà, elles donnent moins faim, une grande capacité de satiété. Mais aussi, on en a parlé la semaine dernière, en fait, c'est le nutriment, le macronutriment, en fait, qui est le moins bien stocké par l'organisme, le moins bien oxydé par l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, bah, en fait, le corps, il est en difficulté pour venir stocker des protéines. Donc, si on a trop de protéines, il va toujours chercher à les utiliser. Et au final, ben, c'est un moindre mal parce que, ben, elles ne vont pas aller dans nos réserves ni de glucose, ni de lipides. Donc, ça peut être une stratégie intéressante. Mais après, une nouvelle fois, je pense que la semaine dernière, on a quand même fait bien le point sur cette balance énergétique, sur les apports énergétiques, etc. Donc, moi, je pense qu'on a donné quelques exemples, mais. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, Bertrand, je pense qu'on peut passer sur un autre point assez rapidement.
Moi, j'aurais un truc quand même de dire, c'est que je pense que cette histoire de gérer les verrines ou les cacahuètes avant et tout, de l'apéro, ça se gère en fait sur la journée et de se poser la question de ses apports sur la journée. Et l'autre jour, on
On va y
parlait.
venir après, Bertrand. On va y
Ah,
venir après,
pardon.
Bertrand. C'est une
Donc,
autre stratégie.
ouais.
Mais tu as raison. Bah, on peut rebondir, hein, du coup dessus. C'était un autre point, effectivement,
Ouais.
que je voulais aborder. Mais c'est un autre point, effectivement, que j'avais mis après parce qu'en fait, il est un peu plus sur la question aussi de l'entraînement et tout. Mais tu as complètement raison, en fait. Vas-y, du coup, je te laisse
Ben,
continuer.
en
Ouais.
fait, sans parler de l'entraînement, moi je pense qu'il faut les stratégies de ceux qui veulent faire le jeûne intermittent en se disant je vais faire le jeûne parce que ce soir j'ai trop mangé et tout. Si vous pensez casser le jeûne au moment de l'apéro final du soir en vous disant là, moi il y a un truc, c'est méfiance. Et l'autre jour on en parlait avec ma femme d'ailleurs, et je me disais je crois que c'est le jour où avant le réveillon et les repas, à faire une bonne collation avant pour pas arriver le ventre vide sur le cacahuète. Parce que là, c'est là où tu commences à les gober, à les gober, à les gober. Je parle même pas de s'entraîner ou pas. Hein. Je dis juste en fait que c'est. Et je vais te donner, parce qu'un jour, j'ai eu un prof de vente qui m'a donné l'astuce et il a géré pour autre chose. Quand il voyageait en Russie, il me racontait un truc. Il disait, quand je vais en Russie, avant les repas d'affaires, je mange toujours de la purée avant d'aller voir mes clients, parce que sinon ils veulent me bourrer la gueule avec de la vodka. Et donc, comme ça, j'ai pas trop faim, je mange, picore pas les trucs, je bois pas trop, tu vois, j'ai pas le ventre qui est plein, qui va se remplir.
Alors, c'est vraiment, t'as raison, super intéressant en fait, mais il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'une calorie est une calorie et qu'une calorie sera toujours une calorie de plus dans notre corps.
Mais si t'es de manger, tu vois, si t'as pas le ventre vide.
Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est super important de faire une collation avant, t'as vraiment raison. Mais je pense qu'il faut avoir une collation qui est relativement légère, effectivement, pour pas avoir cette envie de s'affamer, etc. Mais tu as raison aussi en disant que c'est important d'interroger les autres repas de la journée. Et en fait, ça, c'est une vraie stratégie pour limiter la casse, si on veut limiter la casse pendant les fêtes. Parce qu'il faut toujours se souvenir que globalement, on ne va pas prendre du poids sur un repas, on ne va pas prendre du poids sur une journée, on ne va pas difficilement prendre du poids sur une semaine, on va vraiment prendre du poids sur du long terme. Et en fait, c'est vraiment cette idée de rééquilibrer la balance énergétique aussi sur les autres repas. Mais je pense que c'est important, vraiment, à prendre en compte. Mais comme tu le dis, je pense qu'il ne faut pas s'affamer. Parce que clairement, je pense que s'affamer, c'est vraiment prendre le risque de finalement manger sans doute beaucoup plus le soir du repas ou ça. Et d'ailleurs, les travaux dont on a parlé la semaine dernière d'Audrey Bergouignan, lorsqu'elle mettait des personnes dans des phénomènes aigus de surnutrition, le fait de rééquilibrer ensuite ses apports, c'était pas le premier facteur qui faisait qu'on prenait pas de poids, souvenez-vous, hein. C'était vraiment cette activité physique fractionnée. Donc ta stratégie, elle est excellente. Après, tout dépend de la collation aussi, c'est-à-dire que si tu prends du pain avec du beurre de cacahuète, au final on vient un petit peu au même problème.
Arrête d'attaquer mon beurre de cacahuète, s'il te plaît. La collation, c'est, et je dis parce que après les gens pensent que je mange que du beurre cacahuète, etc., mais systématiquement dans mes collations il y a une pomme, une poire, une banane ou un truc comme ça, des noix, de l'eau, de l'infusion, des choses comme ça. Hein. Et il ne faut pas croire que je mange du beurre cacahuète toute la journée. Je n'en mange que 3 pots par semaine environ, tu sais. Non, c'est une blague. Non, mais vraiment, sans blague, ma collation type, c'est plutôt un fruit avec quelques noix, quelques amandes, mais pas trop. Hein. Et c'est parce que j'ai retenu quand même l'histoire des leçons, les grosses poignées, les petites poignées et tout. Et de l'eau, boire et tout.
Mais c'est parfait. Alors voilà. En plus, ça nous permet de faire un lien avec le deuxième point, en fait, hyper intéressant, c'est la question des variations de la glycémie. Alors ça, je pense qu'on pourra en discuter beaucoup plus longtemps, parce que travailler sur la glycémie, c'est vraiment travailler sur le long terme. Aujourd'hui, le but, ça va être simplement de vous apporter des petits éléments de connaissance pour arriver à maîtriser un petit peu sa glycémie à court terme et essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de pics. Et en fait, ta collation dont tu parles, elle est idéale. Pourquoi elle est idéale? Parce qu'en fait, tu vas venir mixer un fruit avec un oléagineux. Et pourquoi c'est important de prendre un oléagineux quand on prend un fruit? Parce qu'en fait, déjà, un, on rajoute des fibres, et deux, on rajoute des lipides. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la charge glycémique de ton repas. La charge glycémique, c'est quoi? C'est la quantité de glucose qu'on va ingérer à un moment donné dans le repas, tout en interrogeant, en fait, l'index glycémique total du repas. En fait, depuis tout à l'heure, je parle de charge glycémique et d'index glycémique. On va revenir à l'origine, ce qu'est la glycémie. La glycémie, en fait, c'est vraiment le taux de sucre dans notre sang, ou ce qu'on appelle le taux de glucose. Je parlerai de glucose de manière indifférenciée entre sucre et glucose. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas différencier les féculents ou les sucres lents, les sucres rapides. Non, le glucose, c'est vraiment le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mange des aliments dans lesquels il y a des glucides, qui contiennent des glucides, alors ça va forcément induire une réaction de la glycémie dans notre corps. Et donc, globalement, en fait, on s'est rendu compte que la glycémie, c'est un phénomène homéostatique de notre corps. Donc, ça rejoint le tout premier épisode qu'on a enregistré ensemble. C'est notre pancréas, en fait, qui va libérer deux types d'hormones, l'insuline et le glucagon. Si notre sang est trop sucré, en fait, on peut mourir de ça. Du coup, notre corps, il s'est adapté et il a produit une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir capter dans le sang les petites molécules de glucose et elle va les sortir du sang pour les amener dans les cellules. Donc là, globalement, il y a plusieurs possibilités. Soit on est en mouvement et donc le glucose qui est capté, il va directement dans la cellule musculaire et donc il est directement utilisé. C'est pour ça que, et ça c'est une parenthèse, mais en fait on ne peut pas avoir d'hyperglycémie à l'effort, c'est très très rare, parce qu'au final, même si on ingère beaucoup de glucose avec beaucoup de gel à un moment donné, en fait le problème il ne va pas être tant dans l'hyperglycémie, il va être dans la capacité des intestins à absorber le glucose, ce qui est un autre problème. Donc on pourra en discuter dans un autre épisode parce que ça, à mon avis, peut faire l'objet d'un sujet intéressant, de quelle quantité de glucose ils font consommer à l'effort, à quel moment, etc. Donc il n'y a pas d'hyperglycémie à l'effort, c'est pas possible parce qu'en fait les muscles demandent beaucoup plus de glucose que ce qu'on peut en ingérer, ou alors il faudrait être en perfusion de gel en permanence, mais ça c'est pas possible. Il y a une deuxième possibilité, c'est si on a un repas qui est assez loin en fait, comme c'est le cas le matin, ou si par exemple on a fait un effort physique le matin, et on verra que du coup c'est une stratégie intéressante. Ben comme on l'a expliqué la semaine dernière, on a vidé un peu nos réserves de glucose, et donc dans ce cas en fait les molécules de glucose qui sont captées dans le sang grâce à l'insuline, elles vont avoir vocation à recharger nos stocks de glucose, donc ce qu'on appelle les stocks de glycogène, donc soit le glycogène hépatique ou le glycogène musculaire. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les petites molécules de glucose, elles vont aller directement recharger ces stocks pour un éventuel effort physique. Et il y a un troisième cas, et c'est celui qu'on ne veut pas, finalement, c'est quand nos stocks sont pleins et qu'on est inactif, autrement dit, on n'a pas besoin de glucose, ben là, il y a du glucose qui augmente dans notre sang, et ben l'insuline, elle va quand même venir le chercher. Mais comme elle ne peut rien en faire, elle ne peut pas ni l'utiliser à court terme, ni recharger des stocks qui sont faciles, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller les stocker dans des réserves plus profondes que sont les réserves de graisse. Donc, on voit bien qu'avant de stocker du gras, il y a quand même des mécanismes qui se mettent en place. Et donc, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut entendre aussi dans ces deux hormones que sont l'insuline et le glucagon? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas mal de temps maintenant et qui a un peu changé ma manière de concevoir l'alimentation. C'est le fait que lorsque notre corps produit de l'insuline, on ne peut pas perdre du poids. Parce qu'en fait, notre corps ne peut pas déstocker dans nos cellules, qu'elles soient d'ailleurs dans nos réserves de glucose ou de lipides. Hein. Et à l'inverse, en fait, on ne peut déstocker qu'à partir du moment où on sécrète une autre hormone qui est le glucagon. Alors là, le glucagon, bah, c'est l'hormone inverse. Hein. C'est que quand le taux de sucre dans le sang il baisse trop, ce qui est le cas à l'effort notamment, bah, en fait, c'est cette hormone-là qui va être capable d'aller ouvrir la clé des cellules et de dire aux cellules, vas-y, libère un petit peu de glucose, parce que là, on en a besoin pour d'autres sources, comme le cerveau, comme les muscles, etc. Et donc, c'est le glucagon, en fait, qui va faire ce messager entre les cellules adipeuses, par exemple, ou les réserves de glycogène et la cellule musculaire, quand on est à l'effort. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien? Ça, c'est super intéressant, la glycémie. Ça veut dire que, globalement, si notre glycémie, elle est tout le temps haute, à partir du moment où notre glycémie est haute, on sécrète de l'insuline. C'est corrélatif, c'est-à-dire que le corps ne peut pas rester avec une haute glycémie. Et donc, si on sécrète de l'insuline, et ben d'emblée, ça veut dire qu'on ne peut pas déstocker. Et ça veut pas dire qu'on stocke. Ça veut pas forcément dire qu'on stocke. Si on est actif toute la journée et que notre glycémie, elle est haute, c'est pour ça qu'à l'effort, notre glycémie, elle est haute. Pourquoi elle est haute, notre glycémie, si on prend des capteurs de glycémie? Parce qu'en fait, ben, comme on a besoin de beaucoup de glucose dans les cellules musculaires, l'organisme, il va aller relarguer du glucose par l'intermédiaire du sang. Et donc, c'est là une petite limite. Alors, pour les personnes qui utilisent des capteurs de glucose, on pourra refaire un épisode là-dessus, hein, mais c'est la limite des capteurs de glucose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les capteurs de glucose, ils ne distinguent pas ce qui est de l'ordre du glucose endogène ou exogène. Je m'explique. Quand on consomme un aliment, on va consommer un glucose qui est exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Le capteur de glucose, lui, il voit une montée de glucose, il nous dit, bah là, on est à 1 gramme, 1 gramme 10, 1 gramme 20, 1 gramme 30. OK. Sauf que quand on est à l'effort, eh ben, il se produit un mécanisme inverse. C'est qu'en fait, nos muscles ont besoin de glucose et on va relarguer du glucose dans le sang pour pouvoir le ramener. En fait, le sang n'est qu'un moyen de véhiculer du glucose. Sauf que le capteur, lui, il ne sait pas si le sang il va globalement vers les cellules pour les alimenter, pour être utilisé, ou s'il va vers les cellules pour être stocké. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup, hein, d'ailleurs, dans un sens et comme dans l'autre, hein, soit des personnes qui sont pro-capteurs de glucose pour perdre du poids, voire même, on a vu sur les réseaux sociaux, des personnes diabétiques qui disaient que ben, c'était pas forcément très bien d'utiliser des capteurs de glucose quand on n'est pas diabétique, parce que justement, il y a des personnes qui en auraient besoin et qui pourraient ne pas les utiliser. Et en fait, on comprend en fait qu'effectivement, ben, le capteur de glucose, c'est pas forcément un indicateur pertinent pour mesurer ses taux de glucose au quotidien, parce qu'il ne distingue pas justement ce qui est de l'ordre de ce glucose endogène et exogène. Malgré tout, si nous, on comprend le fonctionnement de la glycémie, eh ben, en fait, c'est bien plus intéressant qu'un capteur de glucose. C'est ce qu'on expliquait ensemble, hein, depuis le début, c'est que parfois, nos ressentis, notre connaissance de notre organisme, elle va plus loin que des capteurs qu'on pourrait avoir, des capteurs de puissance, des oxymètres sur la montre ou des capteurs de fréquence cardiaque. Et donc ça, c'est, moi, ça me semble un point qui me semble important de souligner, en fait, cette idée que la glycémie, ça va être un indicateur très important. Donc la question qu'on peut se poser, on pourrait y revenir sur, dans un autre épisode, hein, sur les... entre guillemets, les méfaits à long terme des grandes variations de glycémie à long terme, parce que oui, il existe aujourd'hui des impacts de variations de glycémie non seulement sur la performance sportive, donc ça c'est plutôt du moyen et du court terme, mais aussi sur notre santé à long terme. Donc ça, je pense, Bertrand, qu'on peut le mettre dans notre liste, la glycémie dans, comme prochain épisode, sauf si ça ne vous intéresse pas du tout, et aussi vous pouvez très bien nous le dire par message. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est cette idée de glycémie à court terme. Donc globalement, tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de l'index glycémique et de la charge glycémique. Alors je vais y revenir un petit peu. En fait, tous les aliments qui se composent de glucides, qui comportent des glucides, sont des aliments qui vont avoir une capacité à faire monter notre glycémie plus ou moins vite et plus ou moins longtemps. Eh ben, c'est exactement ça, l'index glycémique. C'est-à-dire qu'on a fait des tests en laboratoire. Hein. On est parti d'une référence qui est le sucre blanc. Et le sucre blanc, on a considéré qu'il faisait monter. On a pris une référence. Hein. Il fallait bien donner une référence. C'est totalement relatif. Hein. Il faisait monter le sucre à 100. Et donc, en fait, ben, le sucre blanc, c'est la référence index glycémique 100. Et derrière, on a comparé, en fait, non seulement la rapidité avec laquelle le sucre s'élève dans le sang, mais aussi la persistance et la hauteur en fait de cette donnée. Et grâce à ça, on a construit en fait ce qu'on appelle la table des index glycémiques. Et donc, on a répertorié tous les aliments en fonction aussi de leurs index glycémiques. Donc, globalement, il existe trois grandes catégories, des index glycémiques bas, moyens et élevés. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il faut toujours privilégier un maximum des bas, on peut avoir un peu de moyens dans le quotidien, et puis on peut envisager que les index glycémiques élevés sont des aliments un peu plaisir, un peu rares. Globalement, il y a des petits indicateurs sans connaître l'étape par cœur. Ben en fait, il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir d'emblée si l'aliment il va être plutôt charge glycémique, enfin index glycémique bas ou élevé. Globalement, plus il y a de fibres, moins il y a de glucose a priori au goût, moins c'est sucré. Plus on va être sur un aliment index glycémique bas. Donc globalement, on est sur des légumes ou on est sur des agrumes, on est sur des baies, on est sur des fruits qui sont très peu sucrés. Et donc là, on va être vraiment sur des index glycémiques plutôt très bas. Entre le bas et le moyen, on va avoir tout ce qui va être céréales complètes, parce qu'il y a énormément de fibres, dans le son notamment, qui vont vraiment limiter l'absorption du glucose. En fait, les fibres, elles font un petit peu comme un tamis dans nos intestins, et du coup, elles vont venir vraiment ralentir le passage de ce glucose dans le sang. Donc, on va avoir un petit peu tout ce qui est les pains complets, etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui est légumineuses. Les légumineuses, c'est des pépites parce que vraiment, elles sont très riches en fibres. Et du coup, elles ont un index glycémique très bas et elles sont très intéressantes en termes de vitamines, de minéraux pour la santé. Et puis après, à l'opposé du spectre, en fait, eh ben, ça rejoint l'épisode que vous avez fait avec Anthony Fardet sur la question de la matrice des aliments. Eh ben, en fait, plus la matrice elle est déstructurée, donc plus on est sur des céréales raffinées, plus globalement les aliments ils ont été craqués comme on appelle, et donc bah, globalement ils ont ce goût craquant hein, qu'on adore hein, pourtant hein, et plus l'index glycémique il va être élevé. Alors là Bertrand, tu vas me dire ok, mais concrètement c'est quoi le lien entre l'index glycémique et la prise de poids? Bah, en fait on comprend que finalement pendant les fêtes on va être davantage sur des aliments plaisir, on va être davantage sur des aliments qui vont avoir un index glycémique relativement élevé et on va pas pouvoir contrôler cette charge. Donc, la problématique, on se dit, bah, ok, finalement, on va pas pouvoir tant agir là-dessus. La question, c'est comment on va pouvoir réguler cette glycémie sans pour autant jouer sur notre repas. Et une nouvelle fois, on pourra refaire un épisode sur comment réguler au quotidien notre repas, comment structurer nos repas au quotidien pour limiter nos glycémies. Bah, on peut envisager plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il existe un aliment un peu magique qui est le vinaigre de cidre. En fait, on a démontré que le vinaigre de cidre, il avait une incidence incroyable sur la glycémie. Et prendre un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau avant le repas, eh ben, ça diminuait de 30% le pic glycémique du repas. Donc ça, c'est assez quand même incroyable. Deuxième aliment, pareil, un peu magique, c'est la cannelle. Alors, c'est plus compliqué d'avoir de la cannelle sous le coude au moment des fêtes, ou alors aller voir mamie et lui dire, écoute, mamie, est-ce que tu fais souffler?
Dans tous les gâteaux, de la cannelle, arrête, on a tous de la cannelle.
Donc, pareil, la cannelle, super aliment, elle a une incidence de 20 à 30% de diminuer la charge glycémique du repas. Et puis après, bah, il y a d'autres choses. On a dit maximiser les fibres et ou organiser le repas en termes d'ordre. C'est-à-dire, on s'est rendu compte en fait que si jamais, dans un premier temps, on mangeait les fibres et les protéines, bah, on allait créer ce fameux tamis dans l'intestin. Et donc, si ben, dans votre assiette 4 quarts de tout à l'heure, vous allez commencer par les haricots verts et ensuite la dinde et en terminant par les pommes de terre, et ben, en fait, la charge totale glycémique de votre repas, elle va être bien plus basse que si on faisait tout à l'inverse, c'est-à-dire les pommes de terre, la pintade et ensuite les haricots verts. Donc ça, c'est quand même assez incroyable de se dire que pour le même repas, en fait, on peut avoir une action beaucoup moins importante en termes de variation de la glycémie sur son corps et donc, a priori, se faire beaucoup moins de mal. Donc ça, c'est intéressant. Donc soit on rajoute du vinaigre de cidre, soit on rajoute de la cannelle. Après, on organise notre repas. Et enfin, il y a un truc qui est incroyable, bah, c'est l'activité physique et le mouvement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est les fameux trois scénarios. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bouge, eh ben, le sucre qui est dans notre sang, bah, tout de suite, il va sortir de notre sang pour aller dans nos cellules donc, qui bougent et qui en ont besoin. Mmh. Et moi, j'ai fait une expérimentation comme ça avec le capteur de glucose pendant un petit moment. Je t'en parlais un petit peu en off. Et en fait, c'était assez intéressant parce que je savais très bien qu'après un repas, j'allais toujours marcher. Et je savais très bien qu'à 80 mètres au bout de ma rue, eh ben, j'avais une inflexion de ma courbe de glycémie. Donc, je voyais la courbe baisser. Donc, globalement, ça peut être sympa hein, de se dire qu'entre les plats, on va bouger. Et ça rejoint finalement la théorie hein, des travaux d'Audrey Bergouinon sur l'activité physique fractionnée, comme elle appelle hein, le cracking, de dire bah, en fait, entre les plats, on va bouger, on va se lever, on va aller taper 2-3 balles de foot avec les enfants.
Je viens d'avoir une idée dans la tête, mais je viens de comprendre un truc, je viens de comprendre une vieille tradition française. C'est incroyable. Je comprends maintenant pourquoi il y a la danse des canards dans tous les repas de famille entre les
ça
plats et
ça.
Le dessert.
C'est sûr.
Vous faites trois fois le tour de la maison dans la danse des canards accroupi. En plus, ça va vous faire un exercice, un renforcement musculaire de dingue. Votre glycémie elle va être contrôlée. Bim. Et puis et tu vois, d'un coup, on vient de réexpliquer les traditions françaises. Moi, je croyais que c'était un truc, tu sais, pour rigoler. Mais non, en fait, on n'a rien compris.
Tout.
On n'a rien compris.
Non, mais
c'était
incroyable,
une stratégie de gestion
très
précise du glucose.
Et même la petite marche de digestion. Mais c'est totalement ça, en fait. C'est-à-dire que vraiment, cette marche, elle permet, mais de manière incroyable, de faire baisser la glycémie. Moi, je l'ai vécu, hein, et c'était flagrant, quoi. C'est-à-dire que la glycémie baisse et sans jamais remonter, et on n'a pas de pic derrière, en fait. Et on n'a pas ce coup de fatigue qu'on ne m'explique pas. C'est vrai, quand on va marcher, on se dit juste « Ah, oh, ben, c'est parce qu'on s'est aéré, etc. » Non, c'est juste parce qu'on a contrôlé notre glycémie. Donc, la glycémie, on en parle un tout petit peu là, mais clairement, je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter plus longuement sur les effets à long terme de la glycémie et de voir en quoi on peut, au quotidien, comment on peut gérer notre glycémie au quotidien pour de nombreux bienfaits. Je vais faire une petite conclusion sur la glycémie. Ouais,
est-ce que je peux rajouter une petite remarque sur la structuration du repas? Parce que moi, il y a un truc, et je pense, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais manger des crudités en entrée de repas. Tu vois, parce qu'on parle des fameuses, des cacahuètes, des verrines, on a parlé du plat, etc. Mais si, tu vois, par exemple, on faisait des petits bâtonnets de carottes.
Bah, c'est génial. Pourquoi les carottes? C'est plein de fibres. Donc, ça va ralentir à 200%, enfin, ça va ralentir à fond l'absorption de l'ensemble des nutriments. D'ailleurs, ça, c'est des stratégies qui sont données par certains nutritionnistes. Notamment, moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup grignoter quand je prépare à manger. Eh bien, j'ai toujours une carotte. J'ai toujours une carotte dans le frigo parce qu'en fait, du coup, je mange ma carotte. Et au final, déjà, c'est peu calorique, OK. Et en plus, c'est plein de fibres. Et du coup, ben, les fibres, elles vont venir ralentir l'absorption du glucose ensuite. Et donc, elles vont vraiment limiter cet impact de la glycémie dans l'organisme. Et donc, complètement, tu as tout à fait raison. Si à l'apéro, il y a des bâtonnets de carottes, de concombres, alors ce n'est pas trop la saison, mais... de chou-fleur, ça se fait beaucoup, de pied radis, ben, c'est parfait. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. Et pour le coup, là, vous allez maximiser ça. On se fait une petite synthèse sur la glycémie et puis ensuite, on va passer au deuxième point. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand?
Bah écoute, oui, de toute façon, je te laisse les commandes, hein, tu sais, moi, je suis en train de regarder mes citations papillotes, alors...
Bon, là, tu vas me donner envie, mais fais gaffe parce que j'ai une arme à la fin de l'épisode. Donc, en fait, si on résume un petit peu, j'ai pire, j'ai mieux. Pour éviter globalement l'idée de trop augmenter notre glycémie, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de consommer des proportions qui sont raisonnables. C'est-à-dire, je pense qu'on peut goûter à tout, on peut manger tout, mais sans pour autant, finalement, que notre charge totale sur le repas elle soit très, très importante. Et du coup, on peut aussi envisager cette logique de volume alimentaire tout en interrogeant la densité calorique. Ça, c'est très, très important. Souvenez-vous hein, que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de volume dans votre assiette que vous avez beaucoup de calories. Vous allez prendre une cuillère à café ou à soupe de beurre, de cacahuètes, vous avez plus de calories que dans une salade totale sans trop de blé. L'idée aussi, ça va être de privilégier un maximum des aliments qui sont peu glucidiques et donc qui vont pas trop faire monter la glycémie. Donc pour ça, soit on va privilégier les protéines et les légumes, soit on va les organiser différemment dans le repas si on souhaite le faire. Donc en commençant davantage par les fibres, ensuite par les lipides et les protéines, et pour terminer enfin vers des aliments ultra glucidiques comme les pommes de terre. Et d'ailleurs, je déconstruis un mythe tout de suite, hein, le mythe de la patate douce. La patate douce, c'est aussi calorique qu'une pomme de terre, et l'index glycémique de la patate douce, il est proche de celui de la pomme de terre selon les modes de cuisson. Donc, on en fait beaucoup, beaucoup de bruit de la patate douce. Alors, moi, je trouve ça très, très bon. Hein, j'adore ça. Mais il faut vraiment se remettre en tête que la patate douce, elle a simplement des qualités par rapport à la pomme de terre parce qu'elle a plus de minéraux, plus de vitamines. Sauf que comme on la cuit souvent au four et qu'on en fait un petit peu des frites à 180 à 200 degrés, les vertus de la patate douce, voilà. Donc ça peut être aussi un petit mythe qu'on déconstruit comme ça au passage.
Arrête. Tu viens de me tuer un autre mythe. Mais et à chaque fois, tu me tues un mythe. Alors après,
mais cela dit, j'en mange beaucoup. Hein. Moi, la patate douce avec du cottage cheese, j'adore ça. Hein. Je ne sais pas si tu connais ce combo, mais c'est juste super.
Alors moi, non. Mais moi, je suis adepte des frites de patate douce. Après, mon coach que j'avais de fitboxing, lui, il l'a mangé, il la faisait cuire à la vapeur. Et en fait, entre ses cours de fitboxing, il l'a mangé, mais en fait, elle était à la vapeur, tu sais, en petits carrés et tout. Et pour pas qu'elle cuise trop longtemps, justement, pour garder des vertus, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que si tu la cuis trop longtemps, elle perd tout. Et cuit trop longtemps et caramélisée dans le four, quand même.
C'est trop bon. C'est trop bon.
C'est le problème.
Mais c'est pour ça que, en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, en fait. Et ça revient un peu à l'esprit de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on peut manger tout en se faisant plaisir et qu'en fait, parfois, on peut aussi sortir de cette logique de est-ce que ça nous apporte forcément quelque chose. Il y a aussi des aliments qui nous permettent simplement d'avoir du plaisir et le plaisir, c'est super important. Et il faut quand même se souvenir que l'alimentation, et on le verra dans la dernière partie de l'épisode, ça reste un moment social et ça reste un moment où on doit être en harmonie et en communion un peu avec les personnes avec qui on est. Et donc, je pense que c'est important. Un autre mythe, c'est le mythe de l'eau. C'est un conseil qu'on donne, hein, de boire beaucoup, parce qu'en fait, le fait d'hydrater, ça va un peu tromper la sensation de satiété, ça va remplir le bol alimentaire. Ça va aussi permettre en fait d'éliminer davantage les déchets métaboliques, donc c'est très intéressant, surtout nous en tant que sportifs, et on verra tout à l'heure une des stratégies qu'on donnera, ça sera sans doute d'aller s'entraîner le matin et ou le lendemain à jeun. Donc boire beaucoup pendant le repas, c'est intéressant. Attention par contre, le fait de boire ne va pas diminuer notre glycémie. On a souvent tendance à penser qu'on va diluer le taux de sucre, mais pas du tout en fait. Le fait de boire n'a absolument aucune incidence sur les variations de la glycémie dans l'organisme.
Par contre, si tu bois de la bière, tu augmentes ta charge glycémique, mais tu la fais exploser. Et je le dis.
Ah oui, non, mais t'as tout à fait raison.
Je précise parce que les boissons, on boit de la calorie, on peut boire dans certaines boissons, on peut boire aussi du glucose sans s'en rendre compte. Je parle souvent des jus de fruits, je dis attention, méfiance, jus de fruits, parce que c'est quand même une arme chargée de sucre, etc. Et ça fait partie des choses. Les cocktails. Les petits ponches et compagnie dans lesquels il y a plein de jus de fruits.
Alors après, il y a alcool et sucre, il faut bien distinguer les deux, mais en fait, il y a des alcools qui sont pleins de sucre, tu en parlais la dernière fois. Mais la bière, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, la bière, on a calculé l'index glycémique de la bière après avoir calculé celui du sucre blanc, donc on pensait que le sucre blanc, c'était le max du max. Eh ben non, en fait, la bière, elle a un index glycémique à 110. Donc la bière, elle fait plus monter la glycémie que le sucre blanc. C'est quand même assez incroyable quand même quand on y pense. Donc effectivement, c'est important aussi de penser à qu'est-ce qu'on boit et aussi à quel moment on le boit. Hein. Pareil, hein, si on boit une bière alors qu'avant on n'a pas mangé de carottes, c'est beaucoup moins bien que si on mange des carottes et qu'après on boit la bière. C'est toujours la même chose.
On va faire un truc. Vous prenez un petit verre de vinaigre pouf, et ensuite vous buvez votre bière. Ça marche ?
C'est ça. Et enfin, le dernier conseil qu'on peut donner, parce que là, on va vraiment conclure cette partie sur la balance, sur les apports énergétiques, c'est vraiment ce que disait Bertrand tout à l'heure, qui est, je pense, un des meilleurs conseils, c'est d'envisager en fait la densité calorique, la charge calorique totale sur une journée, voire même sur une semaine. En fait. C'est-à-dire que sur les semaines des fêtes, il faut accepter l'idée qu'il y a des journées où on va peut-être plus manger que d'autres, il y a des repas où on va peut-être plus manger que d'autres, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, il y a d'autres moments où on va pouvoir venir réguler. Donc ça, c'est intéressant. Aussi, cette idée de ne pas arriver affamé, parce que sinon, c'est vraiment le pire piège pour se ruer sur, moi, ce que j'adore, par exemple, les belins. J'ai un problème avec les Monaco. Et ensuite, l'idée, ça va être vraiment d'envisager ça, sachant que, tout en ayant en conscience que, dans les études scientifiques, c'est démontré que ce n'est pas parce qu'on va rééquilibrer globalement par la suite les apports alimentaires, donc on va venir baisser nos apports alimentaires, qu'on va vraiment limiter cette perte de poids. Il semblerait que ça soit pas vraiment l'indicateur le plus pertinent. Je pense que c'est intéressant de le faire malgré tout, mais il faut vraiment avoir en conscience que c'est pas forcément l'indicateur le plus important. Deuxième chose, du coup, on va passer au deuxième point. Puisqu'on va manger beaucoup, on a vu dans l'épisode de la semaine dernière que, en fait, notre corps, c'était un peu une balance énergétique. On a parlé de la balance oxydative, mais on a vu que le premier facteur, c'était quand même une balance énergétique. Et donc, qui dit consommer plus, dit peut-être potentiellement se dépenser plus. Et donc, si on dépense plus, en fait, on va venir peut-être potentiellement mieux équilibrer cette balance Et donc, mettre toutes les chances de notre côté pour ça. Donc là, on va aborder deux choses. On va aborder vraiment ceux qui souhaitent continuer de s'entraîner, donc d'avoir cette logique de comment je peux continuer de m'entraîner pendant les fêtes sans pour autant que ça ait des conséquences sur ma vie sociale et en même temps que ça ait des conséquences sur mon entraînement. Et puis aussi, on va interroger le deuxième point qui est finalement, moi, je veux juste être en bonne santé, je veux juste essayer de maintenir un poids, je m'en fiche un peu de m'entraîner, qu'est-ce que je peux faire ? Donc pour le premier point, pour l'entraînement pendant les fêtes, moi je pense que là il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment accepter cette idée que si on a envie d'y aller, il faut y aller. Mais je pense que c'est pas le moment pendant les fêtes de suivre un plan rigoureux, même si, comme tu le disais, c'est vrai que si on fait des plans sur 16 semaines pour le marathon de Paris, c'est sûr que les deux premières semaines elles vont tomber pendant les fêtes. Mais ça peut être aussi un bon début de prépa, c'est-à-dire que l'idée, ça peut être une prépa dans laquelle on va y aller un peu aux sensations, un peu au feeling, un peu à l'envie, et puis aussi se rappeler que l'entraînement, ça fait partie du plaisir de la vie, qu'on a la chance de s'entraîner et pas être dans une logique de contrainte. Parce que alors un plan sur 16 semaines, c'est très bien, ça permet d'avoir de la longévité, mais c'est aussi des plans sur lesquels on s'épuise intellectuellement et physiquement. Donc peut-être aussi se dire simplement qu'on va se donner 2 semaines pour s'amuser, pour profiter, pour remobiliser des ressources, redévelopper des ressources, et ne pas oublier que rien que parce que déjà on va stimuler le corps, on va appliquer de la contrainte, on va aller s'entraîner tel qu'on le souhaite, ça sera toujours mieux que de ne pas s'entraîner ou de s'entraîner à moins haute intensité ou moins longtemps. Donc en fait, je pense que moi, le conseil que je donnerais, c'est que même si vous préparez le marathon de Paris en mars 2023, avril 2023, clairement, on a le temps, en fait. La prépa, elle est longue, elle va être intense, elle va être difficile, notamment sur le mois de janvier, le mois de février encore plus, quand la charge d'entraînement va augmenter. Et donc, moi, je pense que ça peut être très intéressant de profiter de ces fêtes pour s'entraîner différemment. Et pourquoi pas en s'entraîner en croisée. C'est aussi des moments où parfois, on en profite pour partir en famille, à la montagne ou dans d'autres environnements. Et donc, l'entraînement croisé, on en connaît les vertus. Donc, aller faire du ski de fond, du ski de rando, aller faire des marches ou des trails blancs à la montagne, ça peut être très cool. Si on est dans un endroit où il pleut souvent et on a la possibilité de faire du home trainer ou ce genre de choses, c'est pareil, ça peut être super bénéfique. Et donc, ne pas hésiter à utiliser l'entraînement croisé pour retrouver de la motivation, retrouver de l'allant. Et ça me paraît super intéressant. Après, pour ceux qui ont vraiment envie de continuer de s'entraîner, la question qu'on va se poser, c'est finalement, est-ce qu'on va placer l'entraînement, à quel moment de la journée on va placer l'entraînement vis-à-vis d'un gros repas de fête ? Alors, on en avait parlé, il y a toujours cette question du plaisir et de l'obligation. Si on est dans le plaisir, il faut y aller vraiment quand on a envie, et on en parlait la dernière fois. Moi, je garde un souvenir incroyable d'un footing dans les 25 bosses le 24 au soir, 24 décembre au soir, à terminer à 18h à la frontale. C'est sans doute un des plus beaux souvenirs de mon expérience sportive, d'un point de vue vraiment plaisir. Mais donc, si on a envie d'y aller au plaisir, il faut y aller quand on a envie. Toi, Bertrand, tu nous disais que tu allais faire ton petit footing dans tes montagnes. Je pense que ça fait partie aussi des petits moments forts de la vie, et donc ça, c'est important. Mais après, la question, c'est si on veut continuer de s'entraîner, à quel moment on va être, entre guillemets, le plus performant ? En fait, il y a plusieurs possibilités. Admettons qu'on va parler du 24 au soir, par exemple. Si on veut s'entraîner le 24, c'est sûr que de caler un entraînement le 24 au matin, si on ne travaille pas, ça peut être super intéressant, pour plein de raisons. Soit le 24 au matin, soit le 24, on va dire, début d'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de caler un gros entraînement le 24, on va venir épuiser des stocks de glycogène. Et en fait, si on épuise des stocks de glycogène et qu'on ne remange pas trop le midi, en fait, le soir, tout l'enjeu du repas, ça va être de restructurer les stocks. Donc là, on va être vraiment dans une logique où on aura fait un gros entraînement. Et en fait, le corps, il va être davantage dans une logique de récupération, de restauration des stocks, plutôt que dans une logique de stockage dans les réserves de lipides. Donc ça peut être très intéressant. Parce que du coup, en plus, ça colle un petit peu à ce qu'on parle, des recharges glucidiques post-effort. Donc ça peut être vraiment une bonne idée. Après, il y a la question de, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'aller s'entraîner à jeun le lendemain d'un gros repas ? Globalement, moi je pense que d'un point de vue de la performance pure, d'un point de vue physiologique pur, il n'y a aucun problème parce que les stocks globalement de glycogène, ils seront au taquet. Je pense que d'un point de vue physiologique, il n'y a pas de problème, mais je pense que d'un point de vue de la performance pure, faut pas oublier que la performance, c'est pas uniquement de la physiologie, il y a aussi tout ce qui est les mécanismes de psychologie, de motivation, aussi le sommeil. Souvent c'est des soirs où on s'est couché tard, et donc il est possible que le 25 au matin, on ne soit pas le plus performant, non pas parce qu'on a bien mangé, mais parce qu'on n'a pas moins bien dormi et que globalement, on n'est pas dans l'idée, dans le trip d'aller faire un méga entraînement le 25 au matin, quoi. Donc, moi, je pense que la bonne stratégie, c'est vraiment plutôt avant un gros repas. Et je déconstruis à nouveau ce mythe de dire « Ouais, le 25 au matin, je ne vais pas être performant parce que j'ai trop mangé la veille. » Mais non, on n'a jamais trop mangé. À partir du moment où on est à 4-5 heures d'un repas, en fait, il n'y a plus du tout d'incidence sur le bol alimentaire et il n'y a plus d'incidence de la quantité du repas sur la performance en tant que telle. Au contraire, d'un point de vue énergétique, on est pas mal parce qu'en fait, bah, clairement, on a des stocks de glycogène qui sont pleins et du coup, ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, en gros, pour les personnes qui veulent continuer de s'entraîner, moi, si je dois résumer, c'est... Je pense plutôt y aller aux sensations, plutôt y aller au plaisir. Si on veut continuer de s'entraîner, bah, c'est caler des séances qui nous font plaisir, au moment où elles nous font plaisir. Et vraiment, surtout pas avoir en tête cette idée de se dire bah, « j'ai ma prépa marathon qui commence ». Ouais, franchement, on aura le temps. Et la prépa marathon, d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire un épisode en janvier sur comment bien gérer une prépa marathon. Ça pourrait être un bon truc. Mais vraiment vous dire qu'elle va être longue. Et il ne faut pas commencer à se mettre trop de contraintes au début, parce que c'est comme ça en fait qu'on explose en plein vol. Tu veux rajouter quelque chose, Bertrand ?
Non, mais moi, c'est vrai que, bon, en plus, alors tous ceux qui ont des enfants, le 25 au matin, on sait que de toute façon, c'est pas le moment où on va y placer une sortie exceptionnelle. Par contre, tous ceux qui vont avoir des vélos, des rollers, des voitures télécommandées, des choses comme ça, il y a peut-être moyen de caler une belle balade, passer du temps dehors, debout déjà, et sur l'histoire de la sédentarité, et de se dire que finalement, c'est peut-être pas un entraînement, mais qu'en tout cas, ça va être de l'activité minimum autour du fait de sortir, d'aller jouer avec les enfants. Puis j'ai presque envie de dire, on peut trouver plein de trucs, parce que moi, avec ma fille, quand elle fait du vélo, je cours à côté. C'est pas une séance qui est extraordinaire en termes de volume, mais si je m'amuse un petit peu, que je m'arrête sur un banc pour faire quelques dips, si je rigole un petit peu avec elle en faisant quelques squats ou des fentes ou des trucs comme ça, je peux à la limite rajouter un petit peu de jeu qui vont rajouter un petit peu de renforcement, de trucs comme ça, et ça passera très bien pendant qu'elle va aller de vélo, pendant que je sais pas ce que cette année le Père Noël va lui amener, mais on pourrait dire par exemple voiture télécommandée ou un truc comme ça, le temps qu'elle court à côté de la voiture et qu'on se balade, je pense que. Au hasard, il y a largement de quoi se balader, faire un tour de 20-25 minutes, et puis ensuite jouer à un jeu, courir avec, jouer à chat perché ou je ne sais pas quoi, qui va rajouter du jeu et par contre du mouvement, hein, et d'éviter de faire la larve.
Alors, tu es trop fort, hein, Bertrand, là, tu me permets d'introduire le deuxième point. C'est vraiment cette idée de dire, OK, et si on n'a pas envie de s'entraîner, comment on peut limiter la casse, entre guillemets, en augmentant nos dépenses énergétiques ? Ben là, on fait vraiment un lien avec l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, hein. Que globalement, on s'est rendu compte que le plus gros poste de dépenses énergétiques, c'était pas l'exercice physique, c'était ce qu'on appelait l'activité physique de non-exercice. Et donc, c'est tout ce que tu nous expliques, en fait. C'est tous les petits mouvements du quotidien qu'on va faire, tous les gestes du quotidien qu'on va faire, la mobilité qu'on va engendrer. D'ailleurs, moi, j'ai du coup des stats sur moi, parce que depuis cet épisode, je fais des tests toujours. Et figure-toi que j'ai vraiment mis en place une dépense de non-exercice très importante et je vois ma dépense énergétique énormément augmenter. Donc en fait, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va pouvoir rééquilibrer entre guillemets cette balance. C'est parce qu'on va avoir davantage de sorties, on va avoir davantage de dépenses que clairement on va induire des déséquilibres ou du moins un équilibre de la balance. Donc, tu as tout à fait raison. Et puis, c'est complètement conforme au message qu'on veut faire passer ce soir. C'est-à-dire que c'est cette idée, et ça fait un petit peu une transition sur le dernier point qu'on voulait aborder, c'est que ben, ça reste les fêtes de Noël et qu'à un moment donné, s'il y a bien un moment dans l'année où on a le droit, entre guillemets, de se faire plaisir et de ne pas culpabiliser, c'est aussi ces moments-là et c'est des moments précieux et ça fait aussi partie de la vie. Vous en parliez très bien dans votre dernier épisode avec, j'ai perdu son nom, le gendarme.
Alexandre, ouais. Béraud, oui.
Ouais, c'est ça, il en parlait très très bien de ses moments privilégiés avec son petit et tout, et c'est exactement ça en fait, c'est cette idée d'apprendre à déculpabiliser. Mais ça, c'est compliqué, et c'est peut-être ça le dernier point, le dernier message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société dans laquelle on est dans la performance en permanence, on veut toujours être le meilleur, être le plus performant, être toujours au top, toujours bien faire. Les réseaux sociaux nous renvoient à cette image des personnes qui vont faire Noël nickel, etc., etc. Et en fait, peut-être qu'il faut simplement se réinterroger sur nos propres envies, nos propres systèmes de valeurs, et se demander au final qu'est-ce qui fait que nous, on va être heureux, que nous, on va se sentir bien. Et par rapport à ça, il y a un truc qui est, à mon sens, très important, c'est la capacité à savoir dire non. La capacité à savoir simplement dire aux autres autour de nous non. Et alors non de deux manières. Soit non, je n'en veux pas et je ne veux pas me resservir parce que je suis dans mon objectif de performance de ma prépa marathon, mais c'est un non parce que c'est OK pour nous en fait et c'est vraiment, on est en accord avec cette décision. Ou soit un non à l'inverse de bah, je me dis non à moi-même et je me dis non, lâche-toi et autorise-toi à vas-y, à te faire plaisir, à reprendre un Kinder, à reprendre une papillote et à te se resservir de la dinde et c'est pas grave parce que non, ce n'est pas si grave à un moment donné de lâcher prise et de s'autoriser vraiment à être dans cette dynamique de bien-être personnel. À nouveau, tout cela, ça s'envisage sur du long terme. Là, on est vraiment sur un épisode qu'on appelle aigu en science et donc on est vraiment sur quelque chose de très, très ponctuel. Et ce n'est pas parce qu'on va mettre en place quelque chose à ce moment-là que l'intégralité de notre prépa ou de tout va être totalement bouleversée. Parce que c'est la question des habitudes. D'ailleurs, on verra peut-être ça à la rentrée ensemble. C'est la question des habitudes le plus important. Et c'est ce qui fait que c'est l'habitude, elle fonctionne. Et c'est ça qui fait que dans notre quotidien, on se sent bien. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Bertrand ?
Bah, en fait, l'épisode avec Alex Béraud, il y a un truc qui ressortait, c'est de dire, c'est éviter de passer des fêtes ou des repas avec, on amène son Tupperware parce qu'on ne veut pas faire d'écart ou quoi que ce soit. Et donc, on se retrouve isolé socialement parce que ça peut être compliqué à gérer. Lui, il avait parlé aussi de l'importance des quantités et du regard que les autres peuvent avoir sur les quantités. C'est un truc qui est intéressant parce que on peut se dire qu'il y a le jugement des autres en se disant « mais il est en train de bouffer comme quatre, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. » Et donc, ceux qui sont dans ce cas-là peuvent l'anticiper. On parlait justement enfin, des collations, des choses comme ça, en disant bah, « ça, à la limite, ce truc-là peut s'anticiper parce que les fameuses rations, par exemple, si je m'entraîne et que je prends une ration de recharge juste à la sortie, etc., le but, et je pense à l'épisode avec Valentin Lacroix sur Sport et Nutrition, on avait parlé de ça, où il disait qu'après au Tour de France, les cyclistes, ils prennent une ration toutes les heures. Finalement, parce qu'ils ne peuvent pas prendre sur un repas suffisamment, mais cette stratégie-là, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en se disant, je fais un gros entraînement le matin et je sais que ça me donne la dalle, j'ai besoin de recharger. Peut se dire qu'on peut faire des recharges qui soient plus calculées sur sur la journée, finalement, avec des rations protéines, macro, tout ce qu'il faut, pour le soir, peut-être avoir moins faim, éviter de se jeter sur tout un tas de choses à droite, à gauche, etc. Mais quand même en profiter sans culpabiliser sur certains apports ou des choses comme ça. Et je crois que c'est là aussi où ceux qui sont vraiment, qui veulent vraiment y réfléchir, je pense qu'il y a une stratégie un petit peu à adopter. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire des carottes, des choses comme ça, mais moi je parlais des pommes, je parlais des noix, on pourrait parler des est-ce qu'on fait à jeun, est-ce qu'on fait le jeûne ou pas. Moi je trouve que le truc qu'il faut éviter c'est de se jeter sur les fameuses cacahuètes en apéro parce qu'on a la dalle et parce qu'on se retient de manger depuis 5 ou 6 heures.
Alors tu vois, tu me prives mon plaisir. Moi je pense que oui, ça dépend en fait, tu vois.
Ça dépend.
Si on a envie de la manger la cacahuète, on y va.
Ouais, non mais voilà, mais c'est-à-dire que si tu dis moi je veux pas trop faire attention
à certains
trucs. Ah oui, voilà,
c'est sûr. Ah oui, c'est clair.
Tu te mets pas dans la situation où tu te mets dans la situation de craquer.
C'est clair.
Par contre, si tu t'autorises à craquer,
c'est ça.
Et ben tu sais que tu t'autorises à craquer, je veux dire.
Mais après on peut craquer de manière modérée parce que je pense que c'est ça aussi le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que il y a soit cette théorie de l'ultra contrôle où finalement on va être vraiment dans non, je m'autorise aucun écart et très souvent on est rattrapé derrière. Hein. C'est-à-dire que très souvent quand on est dans cette stratégie-là, alors moi je l'ai connu, hein, on parle beaucoup des troubles du comportement alimentaire quand on est jeune athlète, etc. On a tous vécu ça plus ou moins en tant que sportif de haut niveau où on était vraiment, enfin je l'ai pas été à ce niveau-là, mais j'ai fait vraiment du sport très jeune à bon niveau et on est vraiment dans cette logique de contrôle, et à un moment donné, on est rattrapé. Et clairement, donc finalement, se priver pendant les repas, des fêtes, c'est très souvent la sanction, elle arrive derrière. Mais à l'inverse, on entend aussi beaucoup la théorie du foutu pour foutu, j'y vais, je me lâche. Mais non, en fait, il faut toujours avoir en tête que, en fait, on peut garder un contrôle sur les choses et qu'à un moment donné, une calorie est une calorie. Et que d'ailleurs, là, c'est un petit peu le mythe du cheat meal qu'on est en train de casser. Hein, mais un cheat meal, c'est pas vrai. Dans le cadre d'un régime, ça ne fonctionne pas parce qu'une calorie est une calorie. Et qu'en fait, à partir du moment où on va manger une calorie de plus, c'est une calorie de plus dans notre corps. Point. Et c'est pas, vas-y, je me fais plaisir à 200%, je suis en eau limite. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais donc, en fait, la question, c'est où est-ce qu'on veut se poser sur ce spectre, comme tu dis. Si on est dans le contrôle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. Si on est dans l'entre-deux, il n'y a pas de jugement. Si on est dans le no-limit, il n'y a pas de jugement. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, la stratégie qu'on adopte, elle soit en accord avec nous-mêmes, en fait. C'est plus ça, quoi. Et c'est aussi permettre de se sentir bien. Et c'est peut-être le dernier point dont on veut parler, c'est que c'est cette idée de pouvoir communiquer avec notre entourage. Je pense que ça, c'est très, très important. Il ne faut pas avoir peur d'expliciter, en fait, le pourquoi on fait les choses, le pourquoi on fait telle ou telle stratégie. C'est-à-dire que, bah, par exemple, toi, Bertrand, tu es dans une stratégie de recomposition corporelle, je ne sais pas quelle stratégie tu vas adopter, mais peut-être que si tu adoptes la stratégie du lâcher prise, ça ne t'empêchera pas de pouvoir, en partie, quand même, pour parler de ta stratégie de recomposition corporelle sur le long terme, en expliquant que bah, là, ce n'est pas grave, tu te fais plaisir, mais parce que tu sais que c'est sur le long terme, etc. Et à l'inverse, si on est sur une prépa marathon, qu'on est au début de la prépa, moi, je sais que, par exemple, en prépa marathon, je suis très sensible au gluten. Je fais vraiment des grosses intolérances au gluten. Donc, je vais avoir tendance à faire très, très attention à ça pendant les prépa marathons. Bah, ça peut être des éléments qu'on peut expliquer aux gens et simplement leur faire comprendre, de dire bah, « là, tu vois, je ne vais pas prendre… de féculents parce que bah il y a du gluten, je vais pas prendre de pain parce qu'il y a du gluten, parce que tu comprends, là je mets mon corps à rude épreuve et à ce moment-là j'ai beaucoup plus de problèmes de digestion. Et c'est peut-être simplement aussi permettre aux autres de comprendre ce que nous on fait et ce qui a du sens pour nous, parce que c'est en leur expliquant le sens qu'on accorde aux choses que eux ils vont comprendre ce sens-là. Et je pense que si on est dans un environnement qui est bienveillant, dans la famille ou dans les amis, on a des gens qui nous comprennent autour de nous, et je pense que les gens ils seront d'autant plus flattés de savoir finalement ce qu'on vit, ce qu'on partage. Et là ça va créer aussi souvent des discussions qui peuvent être intéressantes autour de ça. Et c'est mieux que de simplement dire bah non j'en veux pas, parce que derrière ce non j'en veux pas il peut être interprété de mille et une manières, et c'est souvent ces interprétations qui créent en fait un mal-être, que ce soit pour la personne ou pour les autres personnes. Je sais pas ce que t'en penses.
Non mais ça c'est sûr, parce qu'en plus les gens qui passent du temps à cuisiner, s'ils refusent leur repas et tout, mais
oui,
c'est comme les végétariens qui disent bah, j'amène mon plat et tout parce que je ne veux pas manger de viande, etc. Si tu t'es passé ta journée à faire ta petite viande, ta cuisson de 9h, de je ne sais pas quoi, etc., et que tu arrives quelqu'un qui te dit « Ah ouais, mais moi, ça, je mange pas de viande, je mange… » et tout, forcément, tu as une frustration interne parce que tu veux faire plaisir aux gens.
Alors, ça fait partie aussi de notre société. C'est qu'en fait, mais ça, il faut simplement arriver à le gérer. Parce que notre société, en fait, est basée sur le fait qu'on peut faire plaisir aux autres par l'alimentation. Mmh. Et bien sûr, en fait, le repas est un moment convivial, est un moment de plaisir, est un moment de partage, est un moment d'échange. Mais en fait, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que nous, on peut cuisiner pour les autres et leur faire plaisir, mais on peut aussi accepter l'idée que les gens pour lesquels on a cuisiné n'est pas le plaisir que nous, on a voulu y mettre. Et aussi se dire que nous on a le droit de refuser parfois des choses parce qu'on peut faire plaisir aux autres sans forcément leur faire plaisir en acceptant leur plat. Moi je sais que bah voilà, c'est souvent le cas des grand-mères hein, qui vont me dire allez resserre-toi etc, reprends un petit peu, et on peut simplement dire aux grand-mères mais tu sais mamie je t'aime beaucoup et je peux te faire plaisir autrement et on peut passer un moment ensemble, mais c'est pas parce que je reprends pas tes huiles flottantes que je ne t'aime pas mamie. Et tout simplement, et en fait aussi revenir à ça, à ces valeurs là c'est que notre société elle est organisée là-dessus, et que en bon français, j'entendais l'autre jour que finalement, en France, on est les seules personnes à parler de bouffe après avoir mangé. C'est quand même assez incroyable. Apparemment, c'est très francophone. C'est-à-dire que dans les autres sphères, on ne parle plus de nourriture une fois qu'on a mangé. Mais nous, on est à fond sur l'alimentation. Et d'ailleurs, on en consacre un épisode total sur les fêtes. C'est quand même assez d'ailleurs intéressant finalement de se dire que si on prend un peu de recul sur ce qu'on fait et sur les choix qu'on a fait là, c'est de se dire qu'on pense que gérer les fêtes ça va intéresser des individus, et moi j'en suis convaincue, et ça veut dire qu'on a une culture franco-française qui est très très orientée sur l'alimentation quand même, et sur notamment la bonne chair, la bonne viande, les bons plats. Et effectivement les végétariens c'est compliqué parce que ça s'ancre aussi dans des croyances, et là on fait matcher en fait des choses qui sont difficiles ou conciliables, c'est-à-dire à la fois des convictions, des émotions, des croyances, et donc en fait on rentre dans quelque chose de sensible, de l'ordre de l'intime, et c'est là où ça crée souvent en fait un petit peu des tensions et des problématiques.
Et puis l'autre point que je voulais dire aussi, c'est sur ce lâcher prise, c'est que ce n'est pas l'exceptionnel qui va tout casser quoi. Et c'est pour ça qu'on parlera des habitudes à la rentrée, parce que il y a eu des études qui ont été faites qui l'ont très bien montré, qu'une petite habitude quotidienne est bien plus bénéfique qu'un gros effort une fois qui est suivi de aucun effort. Et le truc dont je veux parler, parce que je vais le dire, et parce que j'en ai parlé l'autre jour dans le livre L'effet cumulé de Dan Hardy, et où il en parle, il montre les courbes de trois personnes, on imagine le truc, une personne qui fait aucun effort d'alimentation, une personne qui fait un déficit et une personne qui fait qui prend trop de calories, franchement, au jour J, ça change rien du tout. Hein, c'est ce que je dis, c'est pas le fait de manger une fois un truc super gras, etc. Mais c'est l'habitude de manger tous les jours super gras qui va créer à long terme des problèmes de poids, et c'est l'habitude de manger, d'avoir un déséquilibre, etc., qui va permettre d'être à l'équilibre.
Bien sûr.
C'est pas s'affamer une fois et puis manger de mal tous les jours va pas nous rendre svelte, et manger une fois mal et manger bien tous les autres jours va pas tout d'un coup tout casser. Enfin voilà. Et il y a des fois, on a besoin de se lâcher là, un petit peu la grappe. On est sur les fêtes, on a besoin de se lâcher la grappe. Et de toute façon, il y a personne qui voit ce que tu es en train de me montrer. Donc là, c'est
et toi,
cherche pas. Hein, c'est ce truc-là est le mal incarné. Donc bref. Non, alors, elle est en train de me montrer un pot d'une marque, hein, qui commence par un N, qui finit par un A, qui a une très mauvaise note sur le scan.
Une patate tartinée.
Ouais, mais les patates tartinées.
C'est trop bonne.
Mais tu sais
c'est
que
bonne.
Ça...
Bah, c'est le bon exemple. C'est le très bon exemple.
Ouais.
C'est l'aliment plaisir. C'est l'aliment qui n'est pas bon pour notre santé, à long terme. Il ne faudrait pas en manger tout le temps. Mais c'est l'aliment qu'on peut s'autoriser pendant les fêtes. L'autre jour, je voyais sur Instagram un nutritionniste que pourtant j'aime bien, un diététicien, je crois qu'il est... Je ne sais pas si diététicien ou coach en nutrition, mais peu importe. Passons sur ce détail, qui nous disait quel chocolat choisir au supermarché pour les fêtes. Et en fait, je trouve que cette vidéo n'a aucun sens. Je trouve que cette vidéo n'a aucun sens parce que au final, on a bien le droit de manger les chocolats qu'on a envie de manger pendant les fêtes. Parce que typiquement, ce sont des chocolats pour les fêtes. Donc, ce n'est pas des chocolats qu'on va intégrer toute l'année dans notre alimentation. Et comme tu le dis, Bertrand, c'est exactement la différence entre l'épisode qu'on fait aujourd'hui, à savoir un épisode ponctuel, par rapport à des habitudes qu'on va vraiment vous expliquer comment on peut les instaurer et tout dans notre quotidien. Et clairement, bah, si on nous dit quel chocolat manger tout au long de l'année, là, la vidéo, elle a du sens. Ouais, parce qu'effectivement, c'est important de trouver une bonne composition nutritionnelle d'un aliment, alors que clairement, la composition nutritionnelle, si on a envie pendant les fêtes de manger du Ferrero Rocher parce qu'il y a du Nutella dedans, et bah, on y va. Et c'est tant mieux, et si c'est plaisir. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est cette capacité à déculpabiliser. C'est vraiment le message que nous, on voulait faire passer ce soir. Aujourd'hui, c'est cette idée de déculpabiliser le bien et le mal dans des épisodes aigus, donc dans des moments ponctuels de notre vie. C'est complètement OK de se faire plaisir et de lâcher prise à des moments, parce qu'on ne peut pas sans cesse faire tout bien et tout le temps. Et je pense que ça, c'est vraiment important, et c'est peut-être le mot de la fin, parce que je pense que quand on aura juste entendu ce mot en disant « Allez, OK, j'ai entre guillemets... c'est à moi de faire ce que j'ai envie », je trouve que ça déculpabilise énormément et que ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul, quoi.
Ouais, et puis, je vais dire un truc aussi, c'est que sur Internet, il y a les gens ce qu'ils montrent et les gens ce qu'ils font dans la réalité. Et d'ailleurs, ça permet de faire un lien avec l'épisode de mercredi. On en parlait, je disais en blaguant, donc c'est un nutritionniste, et je disais en blaguant, je dis « Mais toi, t'as des moments off, t'as des moments où t'es pas bien dans ton année et tout ». Et on parle les coachs de sport, les gens comme ça aussi, où tu as l'impression qu'ils ont toujours de l'énergie, ils mangent toujours bien, ils sont toujours à fond dans les trucs. Et en fait, non, c'est pas la réalité. Il y a des moments où, et on peut dire pareil des champions, on peut dire pareil de plein de gens. L'épisode avec Alex Sandbero était aussi un très bon cas pour dire que il y a aussi derrière la façade qui peut faire envie sur les résultats. Des fois, il y a des sacrifices. Qui vont sur des... parce qu'il le dit quand même à la fin, il dit peut-être que j'ai des années de vie qui ont disparu sans le savoir, on ne peut pas le savoir, sur des sportifs de très haut niveau. Après, dans les messages que j'ai reçus, on peut savoir aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense, et dans les très bons résultats, dans les très bons coureurs, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui sont en fait malades à leur manière. Hein, et des fois, on peut envier les résultats, mais dont on n'envierait peut-être pas le mode de vie. Certains aspects du mode de vie, parce que par rapport aux efforts qu'ils doivent faire pour arriver à avoir certains résultats, par rapport aux sacrifices qu'ils vont faire aussi sur certaines choses, et ben quand on regarde un petit peu notre quotidien, ben en fait on est bien content de se lâcher la grappe et de se dire ben c'est fête de fin d'année, on en profite, on voit pas tout le temps la famille. Et puis moi j'ai envie de dire un truc, il y a un très bon exercice, tu sais, c'est la locution latine memento mori. Et c'est un petit dessin que j'ai fait, souviens-toi que tu vas mourir, mais en fait, de se rappeler qu'en fait, si vous calculez un petit peu le nombre d'occasions qui vous reste de fêter certaines choses avec certaines personnes, bah, des fois, vous vous rendez compte qu'il n'en reste pas tant que ça. Et ça peut être un peu flippant. Je l'avoue, ça peut être un peu flippant parce que si tu fais l'exercice, combien de temps il me reste à passer à vivre ? Tu peux dire, ouais, bah, écoute, toi, tu es toute jeune et tu vas te dire, il me reste 50 ans à vivre. Bon, tu te dis, ouais, c'est longtemps. Mais après, si tu fais l'exercice en disant, bah, combien de temps il me reste de Noël à passer, par exemple, avec mes parents, avec des grands-parents, avec ma sœur et tout, et que tu fais un peu le calcul et que tu dis, bah, finalement, il ne reste peut-être pas tant que ça. Là, tu n'as peut-être pas envie de les gâcher, en fait, et de dire, j'ai vraiment profité. Et c'est un peu aussi, tu vois, ce truc-là, tu ne sais pas encore, mais moi, je mets dans ma newsletter de ce dimanche ce dessin, parce que hier, je l'ai fait, et j'ai calculé, j'ai mis des trucs. Et tu te dis, bah ouais, mais en fait, il y a des personnes avec lesquelles, en fait, j'ai plus que peut-être 5, 6 occasions de le faire avec eux. Et c'est, ça peut être triste de le voir comme ça, mais en fait, ça veut seulement dire qu'il faut en profiter à fond. Et on ne va pas venir y foutre certaines pratiques là-dedans en se disant, c'est pour ça que moi, tu sais, les préparations marathon, comme on disait, très strictes, en pleine fête de fin d'année, etc. J'ai fait un avertissement ce matin sur Amstrad Running Club, sur la vidéo, en disant, ouais, bah écoute, moi, je sais pas, il y a un moment donné, là, il y a une période à gérer, et comme tu disais, il y a un moment, il faut accepter de le gérer, il faut accepter de se dire, ça va peut-être être une autre méthode d'entraînement, être plus cool, etc. Je suis pas pour non plus les plans 24 semaines, etc., qui sont super longs, parce que le temps de l'épuisement et tout est super compliqué à gérer.
Non, on pourra en discuter, je pense que ça peut faire l'objet d'un très bon épisode.
Et c'est, je crois que ça fait partie de tous ces trucs-là où, et franchement, en plus, on n'est pas des pros. Il y a bien sûr des gens de très bon niveau qui écoutent. Ils ne le disent pas, il y a des entraîneurs et tout. Parce que après, des fois, je reçois des messages et je vois les gens et tout. Bien sûr, après, les pros qui vont préparer une course le 5 janvier, ils n'auront pas la même vision des choses. Mais c'est ce que je dis. C'est le sacrifice, ce qu'ils vont faire eux par rapport à leur carrière. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait nous quand on est, quand on veut devenir champion du monde de son monde et des vieillards galopants, quoi.
Je pense que c'est une bonne conclusion pour une fois que c'est moi qui dis ça. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Tu m'as mis un peu le bourdon, mais je pense que c'est une bonne conclusion.
Je suis désolé. Je sais que le memento mori met un petit peu le bourdon, mais tu peux le calculer pour plein de trucs. Parce que moi, quand j'ai fait mes petits dessins, je me dis combien de Noël il reste à ma fille à croire au Père Noël. Je dis, ça c'est dommage, c'est peut-être le dernier. Combien de fois il reste avec telle personne. Ça fait pas beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
Mais
combien
d'occasions il
me
reste pour faire
tu
ça.
Tu mets le bourdon.
En fait, il y en a plein. Il y en a plein d'occasions pour faire ça et tout.
Donc la conclusion, c'est il faut qu'on profite.
Qu'on en profite de ça.
Et qu'on arrive à trouver le meilleur compromis pour nous-mêmes. Bon, Bertrand,
puis,
je pense qu'on a pas mal fait le tour.
Et en janvier, on prendra les habitudes. Tu sais, après
ça peut être cool.
Mais pas des bonnes résolutions, des habitudes sur le long terme.
Non, pas des bonnes résolutions, exactement.
De construire quelque chose sur le plus long terme, pour construire plutôt un mode de vie que plutôt un espèce de truc sur lequel on se fout une pression dingue et que ça explose au bout de quelques temps.
Tout
mais ça, c'est un autre sujet dont on va pas aborder aujourd'hui, parce qu'on se le réserve pour la rentrée.
C'est ça. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas nous entendre pendant 2 semaines.
Bah, écoute, on va faire un petit peu de pause.
On va faire une petite pause. Ça va nous faire du bien aussi.
Ah bon ?
On va se reposer. Nous, en off, à mon avis, on ne va pas faire de pause. Nous connaissons, là, les babards, là.
Et puis, je le dis, il y aura quand même un épisode chaque semaine du mercredi. Et en fait, ils sont tous enregistrés, sauf un. Il me reste enregistré l'épisode juste entre le nouvel an, là, et tout, comme ça. Tu sais ce que je ferai ? Je mangerai avec un peu de papillote d'une main, de la dinde de l'autre, et je donnerai des conseils. Ah, c'est une blague. Bon, bref, mais ça sera sûrement un bilan de l'année, on verra ce qu'on fait. En tout cas, écoute, Laure, je te souhaite des belles fêtes de fin d'année.
Moi aussi, Bertrand. Hein ? Énormément.
J'espère que tu as récupéré de tes petites cascades, de tes blessures, de tes déceptions de marathon que tu n'as pas
pu faire, hâte
etc.
que les vacances arrivent malgré tout. Je t'assure que j'ai hâte que les vacances arrivent. La fatigue commence à se faire sentir.
Voilà. Et puis après, je sais que peut-être pendant les vacances, il y a des gens qui vont moins écouter. Donc déjà, je vous souhaite un peu des bonnes... on va leur souhaiter des bonnes fêtes. Nos meilleurs voeux que 2023, on va voir ce que ça nous réserve. Mais en tout cas, on sera là au rendez-vous, hein.
Ouais, nous on sera là et encore plus motivés que jamais avec plein de nouvelles thématiques. Et puis n'hésitez vraiment pas à nous soumettre des idées si ça vous intéresse, ça c'est vraiment un truc important pour nous.
Sans oublier de 1, laisser un commentaire sur Apple Podcast, laisser une note sur Apple Podcast, Spotify. Et puis, si vous avez besoin de trucs personnalisés, d'accompagnement, de conseils pour être plus performant, pour avoir de l'accompagnement, d'avoir quelqu'un qui vous donne de l'élan, qui vous donne des conseils, qui vous appuie et tout. Contactez-nous.
N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider.
On pourra vous aider, et franchement, ce sera avec un grand plaisir parce que nous, on veut que vous soyez tous champions du monde de votre monde. Allez, sur ce, il est temps de clôturer. Ma petite papillote, et je t'ai pas donné la citation de ma papillote du jour. Hein ah, c'est dommage.
La citation.
La citation papillote. On va finir comme ça quand même, parce que, Jean-Paul Sartre, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est.
Ça, c'est pas mal, à chaque fois, mais on dirait que tu les trouves exprès, quoi.
J'ai mangé 25 papillotes pour avoir la bonne citation, mais en fait, je suis tombé sur un lot, un paquet de papillotes. Je me suis rendu compte que plus tu payais les papillotes chères, et plus meilleures étaient les citations.
Les citations étaient de qualité.
Le chocolat est moins bon quand tu les payes moins cher, et en plus, les citations sont plus pourrables.
Bon,
et
ça,
c'est un truc hallucinant.
C'est la nourriture intellectuelle.
Ouais, Révillon, c'est... Okay. Alors là, je les ai trouvés traîtres sur le coup, là. Mais bref, c'est la parenthèse. Mais
génial.
J'ai fait la remarque. Allez, c'était donc la citation. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine, des bonnes fêtes. Merci, Laure. Et puis,
merci à toi, Bertrand.
On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.
Au revoir.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.